Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
This is an inhospitable workplace, but what they produce is an invaluable resource for Australia and the world.
Un lieu de travail inhospitalier, mais une ressource vitale pour l'Australie et pour le monde. Chris Smith, journaliste de Sky News, est descendu à 280 mètres sous terre pour suivre la vie dans une mine de charbon dans la province de Nouvelle-Galles du Sud. L'Australie, c'est l'irréductible du charbon. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast des Échos. La rédaction se mobilise tous les jours pour raconter et analyser dans un podcast un fait de l'actualité économique, sociale ou environnementale. Aujourd'hui, direction l'Australie, défenseur ardent du charbon. Il y a quelques jours, Susan Ley, ministre australienne de l'Environnement, était l'invitée du journal de Sky News pour évoquer notamment l'avenir de la Grande Barrière de Corail qui va être cartographiée pour mieux la protéger. Elle a aussi parlé de l'ancien président John Elliott, amateur de foot, mais elle a surtout répondu aux questions du présentateur sur la COP26 de Glasgow et sur l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050.
The discussions are taking place, Chris, in the lead up to Glasgow, and you know we aren't in that week of November yet. As Environment Minister, no one wants to get to net zero more quickly than I do. I think there's general recognition that we can get there, that we should get there.
En tant que ministre de l'Environnement, personne ne veut atteindre le zéro net plus rapidement que moi, dit-elle, ajoutant, je pense qu'il y a une reconnaissance générale que nous pouvons y arriver, que nous devrions y arriver. Elle insistait aussi sur l'importance d'amener la population à les suivre. Et quel meilleur message que celui envoyé quelque temps plus tôt par la ministre de l'Écologie, lorsqu'elle a signé, au nom du gouvernement Morrison, l'accord permettant à une filiale du géant minier Glencore d'agrandir sa mine de Mangola en Nouvelle-Galles du Sud. Elle va pouvoir extraire 52 millions de tonnes de charbon supplémentaire au cours des 8 prochaines années. En à peine 4 semaines, le gouvernement australien a ainsi autorisé le prolongement de 3 mines de charbon, car en Australie, si l'on n'a pas encore de sous-marin, on a du charbon, beaucoup de charbon. Bonjour Grégory Pless.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, correspondant des Échos en Australie. Que représente le charbon pour l'île continent ?
Alors, c'est un pan très important de l'économie, bien sûr. C'est depuis plusieurs années, c'est le deuxième produit d'exportation de l'Australie après le minerai de fer. Ça représente des dizaines de milliards d'euros de recettes chaque année, des dizaines de milliers d'emplois également. Et ça reste toujours la principale source de production d'électricité en Australie. On est actuellement à peu près 60% du mix énergétique australien issu du charbon. Donc, c'est une matière première essentielle encore aujourd'hui pour ce pays.
Ouais, je suis tombé sur une photo incroyable de Getty Images. C'est à Wollongong, alors je ne sais pas si je prononce bien, une ville de près de 300 000 habitants dans le sud-est de l'Australie, c'est pas très loin de Sydney. Une très belle plage de sable fin avec ses joggeurs, ses baigneurs, ses surfeurs. Et l'on voit en arrière-plan une énorme installation d'extraction de charbon avec ses cheminées qui renvoient des panaches de fumée dans l'air. Le charbon est vraiment omniprésent en Australie, il est vraiment inscrit dans le paysage.
Eh bien, ce qui est sûr, c'est que là où il y a effectivement des activités liées à l'exploitation du charbon, c'est pas une activité invisible. Au contraire, on la voit de très loin. On se rappelle, hein, c'était il y a plusieurs décennies maintenant, mais les terrils dans le nord de la France, bon, bah, ça structurait également le paysage. Pour revenir à l'Australie, de fait, c'est une activité très importante. Donc, il y a des endroits comme ça où ça se voit beaucoup. Après, faut pas oublier que c'est un pays immense qui fait 14 fois la taille de la France et l'essentiel du territoire reste complètement vierge. gorge, en fait, il n'est pas habité et il n'y a pas non plus d'exploitation partout. Mais il y a effectivement quelques endroits comme ça où les images peuvent paraître choquantes. Un peu à l'image de la photo que vous avez vue à Wollongong, il y a 2 ans, j'étais parti faire un reportage dans la Grande Barrière de Corail sur une île au large de l'Australie qui s'appelle Heron Island. C'est absolument magnifique, les plages de sable fin, l'eau turquoise, etc. Mais pour accéder à cette île, il fallait passer par la ville qui se trouve juste en face, une ville qui s'appelle Gladstone dans le Queensland. Or, Gladstone, c'est aussi un port d'exportation du charbon. Et donc, au bord de cette eau turquoise vraiment paradisiaque, on avait des montagnes et des montagnes de charbon qui attendaient d'être chargées sur des cargos pour partir vers leur destination, les clients qui en font la commande. Et donc, ce genre de contraste, on le trouve effectivement dans différents endroits d'Australie. Et ça peut faire bizarre quand on n'est pas habitué.
Je le disais, Canberra a donné son feu vert il y a quelques jours à des extensions de mines, à quelques semaines de la COP26. Pourquoi le gouvernement est-il arc-bouté à ce point sur la défense du charbon ?
Alors, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, l'une des raisons, c'est le poids économique que représente cette activité dans le pays. Mais il y a aussi effectivement une véritable mauvaise volonté de la part du gouvernement actuel. Scott Morrison, le Premier ministre, a fini par reconnaître il y a quelques années du bout des lèvres l'existence du réchauffement climatique, mais il n'en était pas totalement convaincu il y a encore pas si longtemps que ça. Et au sein de son gouvernement et de la majorité qui dirige actuellement l'Australie, Scott Morrison est issu du Parti libéral, mais il dirige l'Australie au sein d'une coalition avec un autre parti, le parti des Nationals, qui eux sont très ouvertement climato-sceptiques et opposés à toute forme de concessions favorables à l'amélioration de l'environnement si cela devait se traduire par la moindre perte en termes économiques. Et donc, c'est pour ça qu'il y a toujours aujourd'hui autant de résistance vis-à-vis de ces questions et de lutte contre le réchauffement climatique. Il y a d'ailleurs des négociations qui sont en cours actuellement au moment où on se parle entre le Parti libéral et le Parti national qui, maintenant que Scott Morrison a annoncé qu'il allait se rendre à la COP26, essaye d'arriver avec des bonnes nouvelles pour la communauté internationale. Il voudrait montrer qu'il s'engage finalement à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050, mais les partenaires du Parti national, pour l'instant, bloquent complètement. Et d'ailleurs, la première réunion qu'ils ont eue au cours du week-end, ce qui en est ressorti, eh bien, c'est qu'il n'y aura pas d'amélioration en termes d'objectifs à atteindre d'ici à 2030, alors que ça aussi, c'était très attendu de la part de la communauté internationale.
Mais l'Australie, c'est vraiment le mauvais élève du G20 en matière de lutte contre le réchauffement climatique ?
Oui, oui, clairement, on peut dire ça, même si Scott Morrison affirme régulièrement le contraire. À chaque fois qu'il est interrogé sur la question du réchauffement climatique, il répète à l'envi que l'Australie atteint et bat les objectifs qu'elle s'était fixés dans le cadre de la COP21. Sauf que premièrement, ces objectifs pour l'Australie qui étaient de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 26 à 28%, à peu près tout le monde s'accorde à dire qu'ils sont très largement insuffisants et qu'il faudrait les revoir. L'autre argument que met régulièrement en avant Scott Morrison, c'est le fait que l'Australie ne contribue qu'à hauteur de 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Alors comme ça, ça a l'air pas beaucoup, sauf que il faut se rappeler que l'Australie, c'est au final un pays assez petit, seulement 26 millions d'habitants, et que donc quand on regarde les émissions rapportées à la population de l'Australie, en fait c'est l'un des pays qui pollue le plus au monde, et c'est le pays par habitant qui pollue le plus au sein du G20, avec des émissions 3 fois plus élevées que la moyenne de l'ensemble des pays du G20, y compris la Chine.
Il y a une citation intéressante dans l'enquête de Grégory Pless. On la doit à Roy Green, un professeur d'économie. Il dit « L'Australie est un pays dont le style de vie est celui du premier monde et qui repose sur une structure industrielle du tiers-monde. Cela lui vaut la 86e place dans l'Atlas de la complexité économique établi par la Harvard Kennedy School for Government, derrière le Paraguay et juste devant l'Ouzbékistan. L'Australie est un pays exportateur de matières premières, le fer, mais aussi le charbon et le gaz naturel. Difficile de couper le robinet financier constitué par ces ressources. Dans un contexte de crise énergétique post-Covid, le gouvernement australien a donc décidé d'accorder de nouvelles autorisations de production. Comment ces décisions sont-elles perçues par l'opinion publique, Grégory ?
Alors, c'est assez partagé, contrairement à la France, où il me semble que la question du changement climatique est acceptée désormais par tout le monde. En Australie, on croise encore un certain nombre de gens qui pensent que le réchauffement de la planète, c'est une opinion plus qu'une vérité. Donc, il y a certaines personnes qui estiment que c'est très bien de tenir cette position qui vise à défendre l'industrie et l'économie australienne. Mais je dirais malgré tout que l'immense majorité est opposée à cette politique. Il y a vraiment eu un réveil au moment des terribles incendies qui ont frappé le pays en 2019-2020. Ça avait déclenché des manifestations très importantes. L'Australie n'est pourtant pas un pays qui manifeste beaucoup, mais là, il y avait des dizaines de milliers de personnes dans la rue qui demandaient ce qu'ils appellent ici la justice climatique. C'était aussi un peu dans la mouvance initiée par Greta Thunberg en Europe et puis ensuite aux Nations Unies. Et il y a quelques mois de ça, il y a une étude qui paraît chaque année publiée par le Lowy Institute qui demande aux Australiens quelles sont, d'après vous, les menaces les plus grandes qui visent le pays. Eh bien, le réchauffement climatique est arrivé en deuxième position. C'est la plus grande menace pour 61% des personnes qui ont été interrogées. Ça arrive juste derrière à 62% pour les cyberattaques menées par des pays étrangers qui viseraient l'Australie. Et par ailleurs, dans cette même étude, on apprend que 54% de la population australienne estime que la politique climatique du gouvernement actuel nuit à la réputation de l'Australie sur la scène internationale.
Notre maison brûle, brandie en lettres capitales. Armés de pancartes aux slogans accrocheurs, ces habitants de Sydney ont ouvert une nouvelle série de manifestations mondiales contre le réchauffement climatique.
C'était en novembre 2019, à l'appel de Greta Thunberg. De nombreux Australiens, dont une grande part d'écoliers, ont manifesté pour le climat. Les jeunes sont en pointe à l'image du collectif School Strike for Climate Justice, qui veut faire pression sur le gouvernement. SS4C a même lancé une cagnotte en ligne pour financer un appel contre la décision du gouvernement d'autoriser les extensions de mines de charbon. Une première décision de justice avait donné partiellement raison aux opposants de ce projet avant que le gouvernement ne fasse appel par l'entremise de sa ministre de l'Environnement. Grégory, le lobby du charbon est puissant ?
Oui, très puissant, effectivement. Il a de nombreux relais un peu partout dans la sphère politique australienne. Il y a notamment un organe qui représente pas juste l'industrie du charbon, mais l'ensemble de l'industrie minière qui est très puissante en Australie, qui s'appelle le Minerals Council of Australia et qui a une influence considérable à Canberra. Et puis, dans l'enquête que j'ai publiée il y a quelques jours dans Les Échos sur cette question, tous les interlocuteurs avec qui j'ai parlé m'ont expliqué que la mauvaise volonté du gouvernement actuel pour eux, il n'y a pas de doute, c'est aussi une question de corruption. Ils n'hésitent pas à utiliser ce terme, corruption des politiques de la part de ce milieu industriel. Et puis, ils évoquaient aussi les allers-retours qui existent vraiment entre le milieu politique et ce milieu industriel. L'un des exemples les plus connus, c'est le propre chef de cabinet de Scott Morrison, John Kunkel, qui, avant d'accompagner Scott Morrison à Canberra lorsqu'il est devenu Premier ministre il y a 3 ans, était vice-président de ce fameux Minerals Council of Australia. Il a également occupé un poste très important au sein du groupe Rio Tinto, conseiller spécial chargé des relations avec le gouvernement. Donc, il y a effectivement un lobby du charbon, un lobby de l'industrie minière au sens plus général et qui a, comme je vous le disais, une influence très très grande sur la vie politique en Australie.
Mais vous le disiez, hein, le poids du charbon est important pour l'économie australienne, mais le plus incroyable, Grégory, c'est que c'est une industrie de moins en moins rentable.
Oui, alors au moment où on se parle, ça n'est pas vrai, puisque comme vous le savez, les prix du charbon ont beaucoup remonté ces derniers mois avec un peu la relance de l'économie d'abord en Chine et puis ensuite dans le reste du monde suite à la pandémie de Covid-19. Mais de fait, ça fait déjà plusieurs années, malgré l'activité économique qui croît dans un certain nombre de pays émergents, que la demande pour le charbon décline petit à petit. Et puis avec les engagements qui ont été pris notamment au moment de la COP21, on sait que cette industrie, plus tard, 20 ans, 25 ans, sera amené à disparaître complètement. Donc effectivement, ça a déjà commencé. Et par exemple, en Australie, certains grands groupes qui sont vraiment spécialisés sur le charbon, par exemple le groupe Whitehaven, qui a bénéficié d'une autorisation accordée par cette ministre de l'Environnement tout récemment, encore juste l'année dernière, a déclaré des pertes de plus de 300 millions d'euros. Et il y a plein d'autres groupes comme ça. Les groupes miniers en Australie, globalement, sont plutôt prospères, mais ceux qui sont spécialisés uniquement sur le charbon, financièrement, vont tous assez mal.
Ouais, on peut penser que tout ça, ce sera effectivement un feu de paille, ce rebond très fort des prix du charbon. Mais ça rend aussi l'Australie dépendant économiquement de la Chine ?
Oui, bien sûr. Alors, les experts avec qui j'ai parlé m'ont fait découvrir une expression que je ne connaissais pas qui disait « China is coal, coal is China ». Le charbon, c'est la Chine et la Chine, c'est le charbon. On le sait, bien sûr, c'est le premier producteur mondial de très très loin, aussi le premier consommateur. Et l'Australie, en tant que grand producteur et premier exportateur mondial, évidemment, traite beaucoup avec la Chine qui est son principal client pour le charbon. Mais à vrai dire, c'est pas pour minorer l'importance des ventes de charbon australien à la Chine, mais en fait, le problème de l'Australie, il est plus large que le charbon, puisque quasiment toutes les exportations de l'Australie ont pour principal client la Chine, qu'il s'agisse du fer, du charbon, du gaz naturel, de l'or, des produits agricoles, et j'en passe. La Chine arrive toujours en premier, très loin devant tous les autres, mais le fait de maintenir effectivement en vie cette activité qui est sur le déclin, ça n'aide pas en tout cas l'Australie à diversifier ses partenaires économiques.
Est-ce qu'il y a des alternatives industrielles pour l'Australie ?
Oui, c'est justement ce que font valoir ceux qui estiment que la politique actuelle ne va pas dans la bonne direction, c'est que l'Australie, contrairement à d'autres pays qui sont aussi de grands exportateurs de matières premières, elle a vraiment tous les atouts en main pour réussir une transition vers une économie décarbonée avec grand succès, puisque dans son sous-sol, il y a beaucoup plus que du charbon ou du pétrole. On trouve aussi du lithium, elle en est déjà le premier producteur mondial, mais aussi du cobalt, du nickel, des terres rares, bref, tous ces minéraux critiques qui sont essentiels, par exemple, pour la construction de batteries de voitures électriques. Alors, l'Australie est déjà présente sur ce marché, mais pour l'instant, de façon assez timide, il y a eu des appels ici et là pour qu'elle prenne une part plus importante sur ce marché qui, actuellement, est quand même très dominé par la Chine. Et il y a eu, au mois d'août, une étude qui a été publiée par le Grattan Institute sur un petit peu l'industrie minière de demain en Australie et qui explique que si l'Australie maintient la part de marché qu'elle détient sur la vente de ses différents minéraux critiques au cours des décennies à venir, sachant que la demande ne va faire que s'accroître, eh bien, à terme, l'ensemble de ces minéraux, l'argent qu'il pourrait rapporter, ce serait le double de ce que représente actuellement l'industrie du charbon. Donc, il y a tout intérêt à foncer dans cette direction. C'est déjà, d'ailleurs, la direction que prend le deuxième homme le plus riche d'Australie, Andrew Forrest. Lui, il a fait fortune avec le minerai de fer, mais depuis quelques années, il a vraiment pris un virage en direction des énergies renouvelables. Il a, par exemple, investi sur cette seule année 600 millions de dollars américains dans l'hydrogène vert, une énergie qu'il estime d'avenir. Et c'est l'un des principaux défenseurs d'une transition écologique pour l'Australie, puisque le politique ne suit pas. Il semblerait en tout cas que dans le monde des affaires, certains acteurs commencent, eux, à agir et à agir de façon très significative.
Merci Grégory Pless, correspondant des Échos à Sydney, pour clore ce chapitre. Un chiffre qu'il me semble intéressant de diffuser, l'industrie du charbon n'emploie plus que 39 000 salariés en Australie. Elle s'est en effet fortement mécanisée et automatisée. Par comparaison, les activités touristiques liées à la seule grande barrière de corail font vivre 64 000 personnes. La story s'est terminée pour aujourd'hui sur cette reprise du groupe australien Midnight Oil, Beds Are Burning, pour la campagne lancée en 2009 en faveur de la justice climatique. 11 ans après la conférence de Copenhague, notre lit continue de brûler. Rendez-vous dans quelques jours à Glasgow pour la COP26. Cette émission a été réalisée par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées.